le journal de Mélanie Kuzelevich. Bonsoir Mélanie.
Bonsoir Marguerite, bonsoir à tous. De l'Europe à la Chine, les critiques se multiplient concernant le plan pour Gaza prévu par Israël. L'Allemagne stoppe ses exportations d'armes dans le pays. Les ONG redoutent un désastre humanitaire. Une ville espagnole interdit de célébrer les fêtes musulmanes dans les installations municipales. Décision saluée par l'extrême droite, mais dénoncée par le gouvernement. Dans l'Aude, paysage de désolation après l'incendie qui a ravagé des milliers d'hectares. Le feu est désormais fixé, mais toujours actif. Une catastrophe à laquelle la population n'est jamais vraiment tout à fait préparée, vous l'entendrez. Et puis c'est dans ce contexte qu'une nouvelle vague de chaleur gagne le pays. 41 degrés attendus demain dans la vallée du Rhône, un phénomène de plus en plus courant ces dernières années. Envers et contre tous, Israël se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza. Après la validation du plan de Benjamin Netanyahou par le Conseil de sécurité israélien, l'armée s'organise malgré les critiques internationales. L'objectif du gouvernement israélien est de désarmer le Hamas et d'assurer la libération des otages. L'opération militaire prévoit de nouveaux déplacements massifs de la population tout en assurant une distribution alimentaire. Près d'un million de Palestiniens sont concernés. Des habitants ballottés de zones humanitaires en zone humanitaire depuis plusieurs années maintenant et menacés par une famine généralisée. Aujourd'hui, Solène Delarquier, les ONG craignent le pire.
Évacuer la ville de Gaza, c'est-à-dire 1 million de Palestiniens supplémentaires, c'est inimaginable pour le porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, Christian Cardon.
85% du territoire est une ligne de front aujourd'hui à Gaza. Les combats sont partout. On a dans notre hôpital de campagne des balles perdues presque tous les jours. On a des patients qui sont en train d'être soignés et pendant qu'ils sont soignés, à nouveau se font tirer dessus. On a des médecins qui opèrent le ventre vide. C'est dans ce contexte-là qu'on veut avoir l'extension d'une opération militaire ? C'est une aberration.
Quant à l'aide humanitaire supplémentaire promise par Israël, il n'y croit pas.
L'aide humanitaire, on l'a dit, a été bloquée depuis des mois maintenant. Et quand cette aide, elle entre, c'est un carnage. Rien que dans notre hôpital CICR au sud de Gaza, à Rafah, on a eu depuis fin mai plus de 3400 blessés. 250 morts. La grande majorité de ces blessés nous disaient qu'ils étaient en route pour aller chercher de l'aide humanitaire.
La Croix-Rouge alerte également sur le devenir des infrastructures encore présentes dans la ville de Gaza et déjà fortement endommagées, comme l'hôpital Al-Shifa, le plus grand du pays, ou le système de distribution de l'eau.
Une opération militaire condamnée de toutes parts à l'international, elle doit être immédiatement stoppée, selon le haut commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk. Le premier ministre britannique Keir Starmer, tout comme la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, appelle Israël à revenir sur ce plan. De son côté, l'Allemagne, le deuxième fournisseur d'armes en Israël, annonce tout simplement suspendre ses exportations de matériel militaire dans le pays. Un changement de cap majeur vis-à-vis d'Israël pour l'un de ses plus fidèles alliés, Niklas Munch.
Le gouvernement allemand reste profondément inquiet de la souffrance continue de la population civile dans la bande de Gaza. Voilà les mots du chancelier allemand Friedrich Merz. Suspendre la livraison d'une partie importante des armes à Israël, c'est un changement inédit dans l'histoire des deux pays. Cette décision est immédiate, elle tombe après que le gouvernement israélien a annoncé vouloir prendre le contrôle de Gaza. Dans son communiqué, Friedrich Merz adopte un ton sévère. Il serait de plus en plus difficile de comprendre en quoi cette opération permettrait à Israël d'atteindre ses objectifs dans la bande de Gaza, à savoir le désarmement du Hamas, un cessez-le-feu et la libération des otages. Avec cette mesure, l'Allemagne s'aligne sur plusieurs pays européens, dont la France. Il s'agit donc d'un geste très symbolique, mais aux effets limités. Car concrètement, cela ne change pas grand-chose. L'embargo concerne seulement les pièces détachées destinées aux chars et bateaux israéliens.
Et l'Europe prévient, ce plan aura des conséquences sur les relations entre l'Union européenne et Israël, réagit sur X le président du Conseil européen, Antonio Costa. L'Inde, dans la tourmente des tarifs douaniers américains, resserre ses liens avec la Russie. Le premier ministre indien Narendra Modi annonce avoir eu un bon échange avec son ami, le président russe Vladimir Poutine. Un entretien entretien téléphonique 2 jours après l'augmentation des droits de douane pour l'Inde par les États-Unis. Ce mercredi, le président américain Donald Trump a en effet annoncé qu'il doublerait les prélèvements sur les produits exportés aux États-Unis par ce pays, les faisant passer à 50% en raison de ses achats de pétrole russe. En Espagne, c'est une décision de la droite conservatrice qui fait réagir jusqu'au gouvernement. La ville de Jumilla, située dans la région de Murcie, dans le sud-est du pays, interdit de célébrer les fêtes musulmanes dans les installations municipales. Une motion présentée par le parti d'extrême droite Vox, puis amendée par le parti populaire qui gouverne à Jumilla en minorité. Mesure fortement critiquée par plusieurs associations, mais aussi par des membres du gouvernement, Marie-Hélène Ballesterouf.
Les musulmans de Jumilla ne pourront plus célébrer la fin du Ramadan et la fête du sacrifice dans les installations sportives de cette petite ville, gouvernée par le conservateur Parti Populaire. La décision municipale a provoqué une vague de contestation en Espagne. Les partis de gauche notamment l'ont qualifié de raciste et xénophobe. Le vice-secrétaire à l'éducation et l'égalité du PP, Jaime de los Santos, s'indigne.
Nous sommes le parti de la liberté. Au-dessus de toute autre question, il y a le respect que chacun puisse être ce qu'il veut être, penser, prier ou appartenir à l'ethnie à laquelle il appartient. Il est absolument inacceptable qu'on cherche à faire passer le Parti populaire pour un parti xénophobe.
Pourtant, selon la motion adoptée par la mairie de Jumilla, le but est de préserver les valeurs et les manifestations traditionnelles de notre identité culturelle. Pour Elma Saif, ministre espagnole d'inclusion et migration, il n'y a pas de doute, comme elle a déclaré hier à la TVE.
C'est une motion absolument raciste et nous allons être très vigilants pour protéger et accompagner la population. Ils sont en train d'utiliser des petites villes comme laboratoire de ce qui est pour eux l'Espagne qu'ils aspirent un jour à gouverner. Un pays fermé où l'on voit que le discours migratoire du PP et de Vox se sont fusionnés en formant un tandem et en concluant des pactes de la honte qui ne font que tenter de faire reculer les droits.
Le gouvernement de Pedro Sanchez a fait savoir également qu'il compte garantir les droits inscrits dans la Constitution espagnole. La motion pourrait contredire l'article 16 qui stipule la liberté religieuse et de culte.
Marie-Hélène Ballesterro, correspondante de France Culture en Espagne. Dans l'Aude, le feu est désormais fixé, mais pas encore tout à fait terminé. Les pompiers sont toujours à l'œuvre pour lutter contre les dernières cendres. Dans la population, l'heure est à la constatation des dégâts. La petite commune de Jonquière a été particulièrement touchée. Près d'un quart de la vingtaine de maisons sont parties en fumée. Boris Lomagne, vous avez rencontré les premiers habitants évacués ce mardi qui reviennent petit à petit dans le village.
Dans les rues de Jonquière, des cendres, des ruines et les larmes de Gilly et David. Le couple de Britanniques se tient les bras ballants devant leur maison de famille. Elle a complètement brûlé. 20 ans de souvenirs partis en fumée.
Tous les mémoires des enfants sont là.
C'est un vrai cauchemar.
Le feu a tout ravagé. Il ne reste que les murs et quelques chaises.
5 chaises. C'est tout ce qu'on a. Une maison de 10 personnes. Nous sommes en train d'essayer de parler à l'assurance, qui ne sont pas très vite.
Gilly et David sont sonnés, un peu perdus.
Je ne sais pas le process.
Alors ils demandent de l'aide au maire, mais Jacques Pirot, lui aussi, est sous le choc.
Un spectacle de désolation. Le village est mort. 5 maisons, au moins, qui sont détruites complètement. C'est un village qui devenait déjà de plus en plus un village de résidence secondaire. Et le phénomène va s'amplifier.
Oui, parmi les maisons détruites, plusieurs appartenaient à des habitants qui résidaient là à l'année. Quelques personnes vont donc quitter définitivement le village.
Boris Lomagne avec les moyens techniques de Martin Troadec. Des incendies ravageurs provoqués dans 90% des cas par l'homme. Et aujourd'hui, une question se pose. Dans les régions les plus touchées par les incendies ces dernières années, comment réagir face au feu ? Les habitants sont-ils assez sensibilisés ? Bonsoir Raphaël Ben Abdelmoumen.
Bonsoir.
Les habitants et les collectivités sont-ils préparés en cas d'incendie ?
En tout cas, l'idée qu'un incendie peut se produire n'importe où entre petit à petit dans les consciences. Et ça, Martine Baringo-Ferrier s'en félicite. Elle est maire de la Bolène-Vésubie et présidente des communes forestières des Alpes-Maritimes, une association qui sensibilise les élus au risque d'incendie.
Y compris dans des altitudes où on n'était pas traditionnellement confronté à des incendies, ben aujourd'hui tout le monde se dit personne n'est épargné. Voilà, je crois que le premier message qu'on est arrivé à faire passer, c'est ça, et que personne n'est épargné, et qu'aujourd'hui il n'y a aucune commune, en tout cas dans le département des Alpes-Maritimes, qui peut se dire « jamais il y aura un incendie qui détruira ma forêt et ma commune ».
Prendre conscience de ce risque, c'est la première étape pour être mieux préparé, alors que dans les communes touristiques, un problème supplémentaire se pose.
Les difficultés, c'est aussi de prendre en charge des populations touristiques qui ne sont pas forcément prévues et comptabilisées dans nos effectifs. Moi, si je prends l'exemple de ma commune, j'ai une commune de 650 habitants, donc je n'ai pas des structures dimensionnées pour accueillir ma population. Oui, au-delà un petit peu, mais au-delà, quand il y a vraiment un gros afflux, je ne sais pas. Et je pense qu'on a vraiment un travail à développer autour de cette problématique-là.
Autre piste de progression, impliquer davantage les habitants. Le commandant Éric Brocardi est le porte-parole des sapeurs-pompiers.
Si demain on propose aux gens d'avoir un système d'accompagnement, d'équipement de la maison face au risque incendie avec des motopompes, avec une explication claire et concise de ce qu'ils veulent, surtout qu'ils en sont demandeurs. Et bien forcément, le sujet d'avoir des premières actions réflexes, d'humidifier autour de chez soi avant que les flammes arrivent, ça fait déjà partie des bons réflexes.
Et la première chose à faire, ça reste de suivre les consignes des pompiers, évacuer au plus vite lorsque l'ordre est donné ou rester confiné quand les autorités le demandent. Objectif, ne pas encombrer les axes de circulation et permettre aux secours de se concentrer sur l'extinction de l'incendie.
Merci pour vos explications, Raphaël Benabdel Boumen. Des incendies favorisés par la sécheresse et le dérèglement climatique. Les secours restent sur leur garde alors qu'une nouvelle vague de chaleur déferle sur la France. 11 départements sont en vigilance orange canicule. Ils seront 28 demain. On attend jusqu'à 41 degrés par endroit dans le sud. Des vagues de chaleur de plus en plus courantes qui sont amenées à se multiplier, Guillaume Fariol.
Météo France alerte, avec cette chaleur, les sols, la végétation vont s'assécher encore davantage. Risque élevé d'incendie demain dans le Vaucluse, le Var et les Bouches-du-Rhône. Ces conditions vont perdurer ensuite tant que la température évidemment ne redescend pas. Pic de chaleur attendu probablement lundi. Les sols sont secs. Très sec aussi dans un large quart sud-ouest. Cette sécheresse de surface pourrait approcher des records en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. C'est la 51e vague de chaleur enregistrée par Météo France depuis le début des relevés en 1947. 51 vagues en presque 80 ans, dont plus de la moitié depuis 2011 en 14 ans seulement. Des coups de chaud de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses et de plus en plus tôt. Souvenez-vous de la fin juin, début juillet, une vague de chaleur exceptionnelle. Exceptionnel par sa précocité et sa longueur, 16 jours. C'est évidemment l'effet du dérèglement climatique. Les 10 étés les plus chauds ont tous été enregistrés au 21e siècle. La tendance va se poursuivre dans les prochaines décennies. Selon les prévisions de Météo France, d'ici la fin du siècle, nous connaîtrons 10 fois plus de jours de vagues de chaleur. Elles pourront apparaître dès le mois de mai et s'étendre jusqu'à fin septembre.
Guillaume Fariol pour France Culture. Malgré la décision du Conseil constitutionnel, le sénateur Laurent Duplon persiste et signe. Il n'exclut pas un nouveau texte pour réintroduire l'acétamipride, le pesticide controversé et censuré par les sages. Le sénateur assure qu'il tiendra compte des critères imposés par l'institution. Selon lui, le Conseil constitutionnel nous donne les éléments qui pourraient permettre, avec un nouveau texte, de trouver des solutions pour pouvoir peut-être réintroduire l'insecticide. C'est un camouflet qui ne passe pas non plus chez Bruno Retailleau cette fois. Il annonce qu'il va présenter un texte modifié pour allonger la durée de rétention des étrangers présumés dangereux. Cette mesure chère au ministre de l'Intérieur, également censurée par le Conseil constitutionnel. Mais pour Bruno Retailleau, pas question d'en rester là, Elia Bergel.
C'est avec une extrême préoccupation que j'ai pris connaissance de cette décision, commence Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, met en scène sa colère froide au lendemain de cette censure du Conseil constitutionnel. Les sages refusent l'allongement du maintien en rétention administrative de 3 mois à 7 mois pour certains étrangers présumés dangereux. Désaveu pour Bruno Retailleau qui défend cette mesure depuis septembre 2024 et son arrivée, place Beauvau. Notre arsenal juridique décroche complètement du droit européen, tacle le ministre. Ceci veut dire que les Français n'ont pas le droit à la même protection que leurs voisins, martèle Bruno Retailleau, très offensif, qui essaye là de soigner son image avant la présidentielle 2027. Le ministre de l'Intérieur a besoin d'un bilan concret à faire valoir et ne va pas en rester là. Il présentera au plus tôt, dit-il, une nouvelle version de cette loi au Parlement.
L'homme qui a violemment agressé à l'arme blanche le maire de Villeneuve-de-Marc en Isère a été interpellé. Selon les premiers éléments de l'enquête, le maire et son agresseur étaient en litige pour des questions d'urbanisation. d'urbanisme et de travaux réalisés par l'administré sans autorisation. Un mot de météo avec la vague de chaleur qui s'étend demain avec 28 départements placés en vigilance orange à la canicule dans le sud. Prévoyez entre 20 et 22 degrés au lever du jour en Occitanie et en Vallée du Rhône. Dans l'après-midi, on attend 31 degrés à Paris, 35 à Tarbes, 39 à Lyon et 40 à Montélimar. C'est la fin de ce journal réalisé par Brice Garcia, à la technique Anthony Thomasson.